Ceux qui connaissent par cœur le Nouveau Testament, je n'en fais pas partie encore, Romains 12, 5, nous qui sommes plusieurs, c'est clair, on est plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Plusieurs, un seul corps. Et nous sommes, ça je le souligne en rouge, tous membres les uns des autres. Parce que des fois, on a l'impression qu'on est un membre qui est directement accolé à la tête, mais en réalité, on est membres aussi les uns des autres. Donc c'est ensemble qu'on est appelé à grandir. Et pour grandir ensemble, en disciples, à la suite du Christ, Dieu, Jésus-Christ nous a donné des moyens de grâce. C'est un terme théologique, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. Des moyens de grâce, il y a la définition qui s'affiche, c'est l'ensemble des activités, des cérémonies ou des fonctions extérieures que le Saint-Esprit va utiliser pour communiquer des bénédictions aux croyants, au corps que nous formons. Donc ça va rarement se vivre tout seul, comme ça, égoïstement, ça marche pas. C'est des moyens de grâce. Les trois principaux, c'est bien sûr la parole. C'est la nourriture, c'est la lumière. Si on n'est pas en contact avec la parole de Dieu, on est juste en apnée. On peut survivre un petit moment, mais ça va finir mal. En encéphalogramme qui s'aplatit de plus en plus. Et également, le baptême et la scène. La scène, c'est le repas du Seigneur. Ce sont les moyens de grâce, ça veut dire fondamentaux. Et pour pas donner l'impression qu'il y a juste les pasteurs et les anciens qui gèrent ça, parce que c'est souvent eux quand même qui partagent la parole, même si on est tous responsables de nous nourrir, et c'est parfois eux seuls qui font les baptêmes ou président à la scène, je crois que c'est pas le cas ici pour la scène, hein, tout le monde peut la présider, et je trouve que c'est très bien comme ça. On peut ajouter, par exemple, Wade Gruden rajoute tout un tas de choses que vous pouvez lire ici, la prière, l'adoration, la discipline. La discipline aussi, c'est un moyen de grâce. Pour les anciens, c'est pas une partie de plaisir. Hein. Mais c'est important, parce que ça permet de grandir aussi. L'offrande, c'est un moyen de grâce. De donner, c'est un moyen de grâce. Les dons spirituels, la communion fraternelle, c'est pas juste voir mes copains à la fin du culte. La communion, c'est le partage. On est tous membres, le corps les uns des autres, et donc même avec ceux avec qui je suis pas attiré, comme ça, spontanément. On est appelé à construire avec eux aussi. L'évangélisation, le service du prochain, etc., etc. Tout ça, c'est des moyens par lesquels Dieu donne des bénédictions. Il donne. Oui, il prend tout Seigneur, mais c'est lui qui donne, en fait. Et on peut jamais lui donner autre chose que ce qu'on a déjà reçu de lui. Donc aujourd'hui, on va vraiment être sur le baptême et la Sainte Cène. C'est un double sujet aujourd'hui, mais ça durera pas double du temps. Enfin, je me suis arrangé à ce que ça le fasse pas, même s'il y aurait beaucoup de choses à dire. Et on va commencer donc par le baptême. Donc, Jésus qui a ordonné, on appelle ça les ordonnances d'ailleurs, le baptême et la Sainte Cène. Certains appellent ça les sacrements, mais en tant qu'évangélique, on est un peu réticent là-dessus, parce qu'il y a de côté magique dans certaines parties du corps du Christ. Nous, on préfère les ordonnances parce que Jésus-Christ les a ordonnées, tout simplement. Il a dit de le faire, et il y en a deux, donc le baptême. Et donc, on avait déjà lu ça il y a quelques semaines. Jésus-Christ ressuscité rencontre les disciples, leur dit, donc ils allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée, et quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Après plus. Et Jésus s'approcha et leur dit, et c'est ça l'important, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites donc de toutes les nations des disciples. Je vous ai mis une traduction littérale avec un verbe inventé, discipulé, mais c'est ça en grec, discipulé. Donc faites des disciples discipulés et baptisez-les, ces disciples, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit, et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, faire des disciples et les baptiser. Alors j'aimerais faire trois remarques rapides, parce qu'on va être rapide quand même aujourd'hui, vu que voilà, on peut pas non plus dire. Première chose, le baptême ne vient pas comme ça de nulle part. Jésus a pas dit baptisez-les, tout simplement parce qu'il a eu une sorte d'illumination. Non, le baptême plonge ses racines dans le judaïsme, avec, vous mettez une photo d'un mikvé, c'est une sorte de baptistère juif, hein, jusqu'à aujourd'hui, dans les synagogues, il y en a. Même que les femmes sont obligées d'aller une fois par mois, que celles qui sont pieuses en tout cas, ont plongé aussi ceux qui voulaient se convertir au judaïsme. Donc ça marquait aussi une rupture avec le monde d'avant. Et à d'autres occasions, il y a des ablutions, se plongent dans l'eau. Ça existait largement à l'époque de Jésus. Le baptême, c'est une évolution de ce symbole-là. Et bien sûr, la référence numéro 2, c'est le baptême de Jean-Baptiste. Vous trouvez dans les évangiles, les gens allaient de partout et marquaient qu'ils voulaient radicalement changer de vie et s'engager, se purifier pour Dieu. Et donc, il y avait des foules qui arrivaient. Même Jésus a accepté d'être baptisé, alors même qu'il n'avait à se purifier de rien, uniquement pour marquer cette solidarité avec nous. Mais le symbole était là, et Jésus ne fait que changer le sens de ces immersions, de ces bains, ou de ces immersions dans le Jourdain que pratiquait Jean-Baptiste. Et c'est évident que le symbole est très clair. Quelqu'un va dans l'eau, il est immergé, il disparaît un moment, pas trop longtemps, on espère, et il ressort de l'eau, et ça marque bien la rupture, hein, avec l'avant et l'après. Et donc le symbole est très parlant. Deuxième remarque, c'est que le baptême chrétien, on va enfoncer quelques portes ouvertes, hein, quand même. Je prétends pas que vous ignorez ces choses, hein. Je fais juste un sommaire. Concerne uniquement des disciples. Des disciples. D'ailleurs, vous avez vu, faites des disciples et baptisez-les dans cet ordre-là. On fait pas le baptême et ensuite on va voir si un jour ils vont devenir disciples ou pas, ou peut-être qu'ils ne deviendront jamais. On espère que si, mais en tout cas, c'est dans le sens faire des disciples et ensuite les baptiser eux. Et en fait, le Nouveau Testament, il est baptiste dans le sens où il considère, Bible en main, que le baptême n'est légitimement administré à quelqu'un seulement à ceux qui fait une profession de foi, qui déclare sa foi de manière crédible. Donc ça exclut les nourrissons, entre autres. Faire des disciples et les baptiser, clairement. Troisième remarque, le baptême, on devrait même pas le dire, parce que c'est un pléonasme. Parce que baptême, ça veut dire immerger. Baptiser, ça veut dire immerger. C'est un mot du vocabulaire courant de l'époque. C'est pour ça que j'ai mis des cornichons. On a trouvé un texte grec avec une recette de cornichons. Il faut les baptiser. Donc, ils sont plongés dans l'eau. Ils y restent, d'ailleurs. Ou un bateau qui sombre, il est baptisé. Il est tombé dans l'eau. Il est submergé. Donc, quand on dit baptême par immersion, on est en train de dire deux fois la même chose. Parce que baptême, baptiser, ça veut dire plonger. Ça veut dire submerger. Ça veut dire immerger. Ça veut dire nettoyer en plongeant dans l'eau. On n'est jamais dans le Nouveau Testament baptisé avec quelque chose. On n'est pas baptisé avec de l'eau. On est toujours baptisé dans quelque chose, localement, spatialement, dans le Jourdain, par exemple. Souvenez, quand vous lisez les Actes, Actes 8, 36, vous avez Philippe et puis le fonctionnaire éthiopien, et puis voilà, ils partagent l'évangile, et puis ils arrivent devant un point d'eau. Et donc le fonctionnaire dit « Voici de l'eau ». Qu'est-ce qui m'empêche d'être plongé ? Baptisé, vous avez votre traduction. C'est ça que ça veut dire, plongé. Il ordonne d'arrêter le char et il est dit tous deux descendir dans l'eau. Donc c'est pas une flaque d'eau. C'était carrément un eau où on pouvait aller dedans, descendre dans l'eau. Et à la fin, il est dit que Philippe l'a plongé, donc l'a baptisé, et ils sont sortis. Donc, ils vont dans l'eau et ensuite, il est plongé et ils ressortent. Donc clairement, le Nouveau Testament est baptiste et ne connaît que l'immersion du croyant. Donc à minima, la question d'asperger un croyant ou pas un croyant pose quand même un gros problème, en particulier sur le symbole. La personne ne disparaît pas dans l'eau engloutie, on lui met juste un peu d'eau sur la tête. Ça interroge sur la puissance du symbole, et qui est inconnu en tout cas du Nouveau Testament. Le baptême, il a trois fonctions fondamentales, trois significations fondamentales. D'abord, et surtout, il exprime l'union du disciple, du croyant, du chrétien avec Jésus-Christ. Et cette union-là a tout changé. Ça, c'est le symbole par excellence, hein, Romains 6. Voilà. Ignorez-vous que nous tous qui avons été plongés, immergés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été immergés. Par le baptême, l'immersion en sa mort, nous avons donc été enseveli avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. Mort, ensevelissement, vie nouvelle. C'est ça le mouvement. Vous avez un schéma très clair. Mort avec Christ, enseveli, ça disparaît un moment, pas longtemps quand même sous l'eau, attention, faut quand même veiller. Et ensuite, le mouvement de sortie, de nouveauté de vie, et c'est vraiment l'union avec Christ. De la même manière que Christ est mort, a été enseveli, et le troisième jour il est ressuscité, et ben le baptême signifie cette identification que Christ fait avec nous. On n'est pas juste devenu des membres, des adeptes d'une nouvelle religion, on est devenu une même plante avec lui, et il est mort pour nous, c'est clair, mais d'une certaine manière, on est mort avec lui. On est enseveli avec lui, et surtout, cette nouveauté de vie, il nous la donne. La vie de résurrection, on la reçoit. C'est la nouvelle naissance, c'est la régénération. Et bien entendu, c'est pour une nouvelle façon de vivre à la gloire de Dieu en disciple. Il y a donc cette idée très forte de l'enterrement, la disparition du corps sous l'eau. Alors bien sûr, asperger l'eau sur quelqu'un ne rend pas compte symboliquement de cette réalité-là. Ça dit autre chose symboliquement dont le Nouveau Testament ne parle pas beaucoup. Et comme en plus, le baptême est lié à la foi personnelle, on voit pas comment un nourrisson passif pourrait être un candidat légitime au baptême. Deuxième point, le baptême, ça exprime la volonté, la décision d'un engagement du chrétien. Vous avez Pierre qui écrit, Pierre 3:21, les événements du déluge préfiguraient le baptême. Donc, on va écouter ce qu'il dit sur le baptême. Celui-ci, le baptême, ne consiste pas à laver les impuretés du corps, mais à quoi ? À s'engager envers Dieu avec une conscience pure. Et tout cela est possible grâce, bien sûr, à la résurrection de Jésus. Donc, le baptême, c'est pas une espèce d'opération de décrassage, je sais pas quoi, spirituel ou physique, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est un témoignage, c'est un engagement, une expression de la foi du baptisé dans le Christ. En fait, le baptisé, quand il passe par les eaux du baptême, c'est comme s'il disait « Je me suis détourné de ma fausse manière de vivre, parce que la grâce de Dieu m'a saisi, c'est du passé, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, maintenant je marque mon engagement de vivre dans cette nouveauté de vie. » Voilà. Et c'est ça aussi que signifie « offrir notre corps en sacrifice vivant ». Être chrétien, ça veut pas dire qu'on offre à Dieu nos péchés en disant « voilà, on les dépose devant toi, ça fait sûrement partie ». Mais l'idée, c'est qu'il crée une vie nouvelle en nous et on lui offre cette vie nouvelle. Vas-y Seigneur, réussis ma vie pour ta gloire. Conduis-moi, c'est ça, la vie chrétienne en fait. C'est pas juste une affaire qui tourne tout le temps sur la confession du péché et l'effacement, la remise à zéro du compteur. C'est surtout, il y a du neuf et ce neuf, il doit être consacré au Seigneur lui-même, quoi. Alors on voit mal effectivement comment un bébé peut répondre à ces critères. Et troisième signification qu'on peut mentionner ici, c'est que le baptême exprime comment Dieu il s'est impliqué, et la personne du Dieu unique, elle est en trois personnes. Alors ça c'est la doctrine de la Trinité, notre logique a du mal avec ça, mais c'est une réalité, il n'y a qu'un seul Dieu, sous trois personnes qui sont différentes, mais un seul Dieu. J'ai que 1300 cm3 de matière grise, pas plus. Donc c'est difficile logiquement de démontrer ça, mais c'est ce que l'Écriture s'enseigne. Et sans faire un jeu de mots facile, le baptême signifie que notre Dieu Père, Fils et Saint-Esprit s'est mouillé pour nous. Bon, il fallait le faire quand même. Le Père a conçu le plan de salut, le Fils vient, s'incarne, il vient nous représenter, il a la vie parfaite que moi j'ai jamais réussi à avoir, mais lui il la vit, il subit à ma place la mort que je méritais et j'ai plus besoin de la subir, il devient sacrifice pour mon pardon, il assume la condamnation, maintenant il est ressuscité, il est vivant et ils sont actifs. Et le baptême montre que Dieu est actif, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, non seulement dans mon salut, avant, pendant, après, demain et pour toujours. Dieu est et sera toujours actif. Constamment dans l'application aussi de notre salut. Et on pourrait se dire finalement, qu'est-ce que ça change pour moi ? C'est bien beau, David, c'est gentil, t'as fait tes petites diapos et tout. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? Alors j'ai envie de dire en premier, fais-toi baptiser. Sous-entendu, si tu es un disciple de Jésus-Christ, que Tu as reçu sa vie, tu le sais, ça bouge à l'intérieur de toi, l'Esprit Saint, ça veut pas dire que tout est facile, mais je veux dire, il y a aucune raison pour un enfant de Dieu de remettre à plus tard le baptême. J'irais même jusqu'à dire que si vous lisez les Actes des Apôtres, vous apercevez genre apôtre Paul et autres, qu'ils ont été baptisés quasiment le jour de leur conversion. Qu'est-ce qu'ils avaient compris? Pas tout, beaucoup. Ils avaient surtout une révélation du Christ. Mais ils avaient encore beaucoup de choses qu'ils devaient découvrir. Et pourtant, on n'a pas attendu qu'ils valident une espèce de baccalauréat chrétien pour dire ensuite on va être baptisé. Donc il n'y a pas de raison théologique pour lesquelles il faut tout le temps reporter le baptême dès l'instant qu'on est une nouvelle créature, qu'on est un enfant de Dieu, qu'on est un disciple. C'est une erreur en fait de vouloir mettre des délais. Alors c'est pas juste de dire oui mais je suis pas encore assez ci ou je suis encore trop cela. Bah oui bah on apprend, on est à l'école. Mais en fait le baptême ça appartient plutôt à l'initiation, au début. C'est juste pour marquer que je suis quelqu'un de neuf et que je coupe les amarres, je coupe les ponts avec cette vieille vie. Et ça y est, je suis, voilà, j'ai tout à apprendre encore. Mais ça y est, je vis grâce à Christ et à Christ qui vient en moi. Hein. Donc, le baptême n'est pas, on ne baptise pas quelqu'un au nom de la solidité de sa foi. J'ai jamais entendu ça et je serais très inquiet si ça arrivait. On est baptisé, pas au nom de nous, de notre performance, mais du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le garant, quelque part, de tout ça, c'est Dieu. Donc, j'ai envie de dire, fais-toi baptiser, quoi. Si tu es un enfant de Dieu, si tu as pris cette décision, il n'y a pas de raison d'attendre. Parle-en au responsable de l'Église. Ça sert à rien de mettre des délais. Ça brouille, quelque part, le départ, ça crée un faux départ ou un double départ. Deuxième, qu'est-ce que ça change pour moi, c'est finalement, souvenons-nous, souviens-toi de ton baptême. Moi, je m'en souviens, j'avais 14 ans. Je ne sais même plus exactement où c'était, mais je me souviens encore. Et ce n'est pas seulement souvenir de l'émotion, parce que c'en est une, hein. C'est s'en servir aussi comme une arme contre le diable qui veut nous attaquer, qui veut nous faire douter. Qui d'entre nous n'a jamais été titillé par le diable pour qu'on ait des doutes? Est-ce que je suis vraiment un enfant de Dieu? Il y a toujours des gens sympas pour mettre ça en doute aussi, parfois. « Ouais, mais si tu étais vraiment un chrétien, tu ferais pas si... » Ouais, bah oui, t'as peut-être raison, c'est vrai. Mais non. Le baptême, c'est quelque part une arme de savoir que je m'en souviens, ça a eu lieu, c'est un fait historique dans ma vie. Martin Luther, le réformateur du XVIe siècle, il raconte avoir eu des attaques spirituelles incroyables. Faut dire qu'il en avait sur les épaules. Hein. Et le diable, lui essaie de lui coller des doutes horribles. Et il raconte, il écrit qu'il a plusieurs fois résisté à haute voix, c'est important, en disant « Ego sum filius Dei », ça veut dire « Je suis un enfant de Dieu ».« Sum baptisatus », »,« Je suis baptisé ».« Je suis baptisé », »,« Je suis un enfant », »,« Je suis passé de la mort à la vie ».« Credo in Jesum Christum prome crucifixum », »,« Je crois en Jésus-Christ qui est mort crucifié pour moi », »,« Je le crois ». Et je suis baptisé. J'ai marqué publiquement mon changement de royaume. Parce que Christ m'a arraché aux ténèbres, il m'a transporté dans son royaume. Mais des fois, c'est remis en question, hein, par le diable ou par des fautes qu'on fait. On se dit, c'est pas possible. Mais des fois, on fait des trucs pas possibles. Mais c'est pas pour ça qu'on n'est plus enfant de Dieu. Et troisième, qu'est-ce que ça change? Tenons notre engagement. Un jour, on a été plongé dans l'eau. Un jour, on a dit devant le micro qu'on voulait suivre Jésus, où qu'il nous emmène, que prends tout Seigneur, ou même si on maîtrisait pas les paramètres, on va te suivre, Seigneur. Je veux te suivre et je le dis. Donc maintenant, faut juste être cohérent avec ça, en comptant sur le Saint-Esprit. Parce qu'on peut aussi écraser les gens en disant « Ouais, tu t'es engagé, alors maintenant, tu fais. » Oui. Mais la vraie question, c'est comment je le fais? Par quelle puissance? Par quelle ressource? Eh bien, par Christ. C'est Christ qui vit en moi, et c'est sa puissance et sa vie qui sont appelées à, de l'intérieur vers l'extérieur, agir. Donc oui, j'ai cette responsabilité, comme baptisé, comme enfant de Dieu baptisé, de recevoir aussi mes frères et sœurs, eux aussi baptisés, comme des frères et sœurs à aimer. C'est pas juste un truc personnel. Personne se baptise tout seul. Je serais très inquiet si quelqu'un me dit « Oh, moi, je me suis baptisé tout seul. » Ah bon, bah, non, c'est toujours. On est toujours baptisé par quelqu'un. Et en général, dans une communauté, en tout cas. Où il y a un lien avec une communauté. Et aussi, ça veut dire qu'il y a une cohérence à vivre dans le comportement par rapport au baptême. Mais, je le répète, il y a ces moyens de grâce qu'on a dit tout à l'heure. C'est par là que Dieu nous donne les forces, les ressources aussi, pour persévérer, pour être vainqueur en fait. Pas simplement juste tenir le coup jusqu'à la fin, mais bien plus que ça. Porter du fruit, être victorieux. Et il y a l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu. On marche pas par la chair, et encore moins par la chair religieuse, mais on veut marcher par l'Esprit. Maintenant, le repas du Seigneur. Ça va? Vous tenez? Le repas du Seigneur. Alors là, on va prendre par exemple l'institution par Jésus-Christ dans Luc 22. Donc il célèbre la Pâque, la dernière Pâque avant ses disciples. Il va mourir dans pas beaucoup d'heures. Quand l'heure fut venue, Jésus se mit à table avec les apôtres. Et il leur dit, j'ai vivement désiré manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Puis il prit une coupe, remercia Dieu et dit, prenez cette coupe, il l'a pas prise lui-même. Prenez-la. Partagez-la entre vous. Car je vous le dis, désormais, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Donc ça va venir, ça. Et ensuite, il prit du pain et après avoir remercié Dieu, le rompit et leur donna en disant, « Ceci est mon corps qui est donné pour vous, faites ceci en souvenir de moi. » Et après le souper, il prit de même la coupe et la leur donna en disant, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est versée pour vous. » Et c'est pour ça que on le fait, on le vit. Alors autant le baptême fait partie de l'initiation, à la vie chrétienne, au début, autant la Sainte Cène, c'est tout au long de notre marche, tout au long de notre vie, chaque dimanche, tous les 15 jours, tous les mois, ça dépend des traditions d'Église. La Bible nous dit pas, il faut le faire tous les X. Voilà. Chaque fois qu'on fait, on vit ces choses. Quelques petites remarques. Là encore, la Sainte Cène ne vient pas de nulle part. On l'a vu, c'est une Pâque. J'ai vivement désiré célébrer cette Pâque. Avec vous, a dit Jésus. Donc la Pâque, ouais, c'est l'Exode. 1445 avant Jésus-Christ. Les Hébreux, ils sont esclaves en Égypte, ils sont obligés de fabriquer des briques, ils sont complètement opprimés. Et Dieu envoie Moïse. Il dit, tu vas les sortir de là. Laisse aller mon peuple. Alors, Pharaon refuse, vous vous souvenez l'histoire, ensuite il cède quand même. Et puis, la dernière plaie, on met du sang sur la porte. Et les premiers-nés, quand il y a du sang, sont épargnés. Pessar, ça veut dire passer outre. Et ensuite, le peuple sort et en direction le nouveau pays. C'est une image spirituelle. Vie d'esclavage, loin du Christ. Bon, il y a certes nourriture, le choix de la nourriture. Il n'y a pas que de la manne à manger. Dans le désert, il n'y aura que de la manne. Mais le but, c'est de nous arracher de là et nous faire transporter dans un pays où coule le lait et le miel spirituel. Le salut, le royaume de Dieu. Hein, et la Sainte Cène, c'est un repas qui évoque ça, qui évoque cette Pâque juive, avec en plus la nouvelle signification que Jésus, c'est le nouveau Moïse parfait, pas juste là pour sortir physiquement un peuple parmi d'autres de l'esclavage, mais des gens de toute nation, de toute langue, qui étaient esclaves du Satan, les amener dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu, par le sacrifice du Christ, le nouveau Moïse. Une délivrance encore plus grande. C'est ça aussi. Je sais pas pourquoi, j'ai déjà remarqué, j'ai moi-même parfois aussi, quand on prend la Sainte Cène, des fois les gens ont une tête un peu d'enterrement. Je dis, c'est sérieux, je suis d'accord, on n'est pas en train de faire un truc désinvolte, mais en fait, c'est un sujet de joie incroyable. Parce qu'on fait mémoire de ce que Christ a accompli pour sauver une charogne comme moi. Il l'a fait, et je suis plus une charogne, je suis son enfant. Et tu peux dire la même chose pour toi. Donc on peut se réjouir, quoi. Pas besoin d'avoir une tête de carême, on peut se dire, yes! Mais c'est tellement extraordinaire ce que tu as fait pour moi. Alors bien sûr, on va pas discuter sur la façon dont différents chrétiens pensent, comment Christ est présent ou pas présent dans la Sainte Cène, c'est un autre sujet, on l'aborde pas. Deuxième, on pourrait dire, sens de la Sainte Cène important, donc c'est le souvenir du sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Vous avez vu qu'il y a un espace infranchissable pour le pécheur qui ne peut pas être réconcilié avec Dieu par lui-même. Il a fallu la croix, le sacrifice, la venue du Christ pour créer un pont et une possibilité que les pécheurs puissent être transportés d'un côté à l'autre. Mais si Christ n'était pas venu, on pouvait toujours essayer d'avoir sa petite religion, de faire ses petits efforts, ça passait pas. C'est comme si tu sautais plus ou moins loin, mais en fait, tu ne sauteras jamais assez loin pour faire toi-même, pour sauter la falaise. Donc tu vas juste tomber un peu plus loin en bas, par les efforts religieux. Il n'y a que Christ, il n'y a pas d'autre nom qui a été donné par lesquels on puisse être sauvé. Donc il dit bien, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Alors évidemment, il leur donne pas son corps, il leur donne du pain. Comme quoi. Et il leur dit, c'est la nouvelle alliance en mon sang qui est versé pour vous. Le sang, c'est le sacrifice qui est là aussi. 1 Corinthiens 11, 26 nous dit aussi, chaque fois que vous mangez de ce pain et vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. Mais on l'annonce jusqu'à son retour. Et c'est pas une nouvelle triste. C'est le moyen du salut. Donc c'est pour ça qu'on peut se réjouir en prenant la Sainte Cène. On aurait dû mourir à cause de nos fautes, on passait pas à la rampe, mais lui, il a accepté de prendre la mort que je méritais, et Dieu m'a attribué la justice du Christ parfaite que je méritais pas, et je suis considéré comme juste. Si tu mets une loupe, tu regardes ma vie, je suis pas juste. J'essaye, mais j'en suis loin. Mais je suis vu comme juste par mon Père, parce qu'il regarde la justice parfaite du Christ et l'efficacité du sang et du sacrifice de Jésus-Christ. Et chaque fois qu'on prend la Sainte Cène, finalement, on se souvient de ça, on se réapproprie ça, et ça nous donne la joie, et on affirme notre foi, je crois dans ce Seigneur-là qui a donné sa vie pour me sauver. Un autre sens possible du repas du Seigneur, c'est, on salue d'avance les noces de l'agneau, ça c'est un repas futur. Il a dit, je boirai plus. Je mangerai plus jusqu'à ce que, mais il y a bientôt un jusqu'à ce que, et on partagera de nouveau le pain et le vin avec lui. Quand on prend ça ici, pensons-y. Et ça devrait nous donner la banane aussi. Oh, qui est-ce que je suis pour être invité à la table de Jésus? Eh ben si, je suis digne d'y aller, non pas à cause de moi, mais parce qu'il m'a donné la dignité d'y aller. Je peux l'appeler Abba Père. Il m'appelle pas esclave, il m'appelle ami. Tout ça par son œuvre, par son sacrifice. Waouh ! Donc, sourions pendant la Sainte Cène. C'est un repas qui annonce déjà les grandes noces de l'agneau. Vous lirez aussi Ésaïe 25, le festin que Dieu prépare. Encore un sens, ça symbolise la nouvelle alliance. Ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclu par mon sang qui va être versé pour vous. Et on trouve bien sûr ces prophéties de la Nouvelle Alliance, dans Jérémie et autres. Une alliance qui n'est plus comme les autres, qui s'adresse à tous, pas juste les Juifs, mais tous les Juifs et les non-Juifs, et qui est caractérisée par l'Esprit. L'Esprit Saint, qui a tout changé, le cœur de pierre, transformé par la puissance de Dieu en cœur de chair, capable vraiment de plaire à Dieu. Et de suivre d'aller à sa suite. On l'oublie un peu aussi, la Sainte Cène, c'est un repas en commun. Et se nourrir, c'est toujours s'approprier quelque chose d'extérieur pour l'ingérer en nous. Pensez au repas tout à l'heure à la maison, vous allez prendre quelque chose d'extérieur qui va devenir vous-même. C'est un symbole très fort, un repas. C'est cette grâce de Dieu qu'on peut pas produire nous-mêmes, qu'on peut que recevoir. Et en fait, elle devient vie, elle devient esprit en nous. Et en même temps, c'est un repas qu'on prend ensemble. Ensemble. Prenez, pas prends, mangez, buvez-en tous. Il a dit, tous. Vous, tous, allez-y, faites-le en mémoire de moi. Ce qu'on a dit au début, on est plusieurs, on forme un seul corps. Et on peut pas juste vivre démembrés les uns des autres. On doit être ensemble. Église, ça veut dire rassemblement. C'est pas juste un bâtiment. C'est un rassemblement. Une église qui se rassemble pas, elle n'existe pas, en fait, quelque part. C'est un non-sens. Eh ben, en partageant la scène ensemble, on démontre qu'on est en communion avec Jésus-Christ chacun et en même temps qu'on est membres les uns des autres. C'est tellement important, ça, de voir tous mes frères et mes sœurs. Tellement important que pour Paul, si tu rates cette vérité, c'est super grave. Il dit même en 1 Corinthiens 11, 27, « Celui qui mangera le pain et boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Christ. » Le problème, c'est qu'on a tellement souvent dit aux chrétiens, « Attention, si tu as des péchés que tu n'as pas gérés, que tu n'as pas mis en ordre avant la Sainte Cène, abstiens-toi. » Mais c'est absolument pas ce que Paul dit là. Ça n'a rien à voir. J'ai pas dit qu'il faut pas régler les problèmes. Mais c'est pas ça que Paul dit. Quand il dit indignement, il parle pas de ça. D'ailleurs, qui est digne? Moi, je suis digne parce que Christ m'a lavé, hein. Autrement, je ferais mieux de pas toucher à ça. C'est comme une armoire haute tension. Tu mets pas trop les pattes dedans. Parce que ça pourrait te foudroyer. Mais Christ nous donne d'être en contact avec lui qui est la haute tension, en fait. Mais il le permet. En fait, ce qui est indigne, prendre indignement le repas du Seigneur, c'est rater ce symbole d'unité. Et se s'examiner soi-même, c'est examiner mes relations avec mes frères et avec mes sœurs. Comment mes relations avec lui, avec elle, avec lui qui m'énerve, avec elle qui m'agace. Avec lui, je sais même pas, il me salue pas, je sais pas, il y a un truc. Avec elle qui m'a snobé l'autre jour. Avec lui qui m'a parlé mal. Et oh. Avec elle qui a fait le... Toute ressemblance avec des personnages existants serait intentionnelle. Et c'est ça, le s'examiner soi-même. Comment je suis avec mon frère, comment je suis avec mes sœurs, même ceux vers qui je suis pas attiré comme ça. Parce que, aussi nombreux qu'on est, on est un dans le corps du Christ. Il n'y a pas mon côté droit qui fait la tête à mon côté gauche. Tout fonctionne parce que mon cerveau et mes nerfs commandent des choses et ça fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Le problème des Corinthiens, c'est que, oh, ils avaient compris que c'était le repas du Seigneur. Mais chacun faisait son truc à lui-même. Ils attendaient même pas que les autres soient arrivés. Ils commençaient à manger tout de suite parce qu'ils faisaient ça pendant une agape. Et c'était un grand n'importe quoi d'égoïsme. C'est ça, indignement. C'est ça, Wittbond. T'examines-toi toi-même. Ça pose aussi un peu la question. La manière des fois dont on prend la scène. On a l'impression, et je veux pas choquer personne, mais que c'est un peu la dinette. J'ai mon petit godet, j'ai mon petit truc, j'ai mon Jésus, et j'exagère. Mais en fait, c'est vachement contraire, pardon pour l'adverbe que j'ai donné là, mais c'est super contraire au plan de Dieu, en fait. C'est l'ordonnance du Seigneur qui doit manifester le corps, et moi, je serai là, tout seul, avec mon Jésus, ma petite sainte scène, mon petit... Attention, au moins, l'état d'esprit dans lequel on prend les choses. En fait, on ferait presque prendre un gros morceau de pain et le couper, et avoir une coupe, mais on peut plus aujourd'hui que... Covid, etc. On perd les symboles. Mais voilà. L'idée, c'est vraiment de voir le corps. Le corps, c'est pas un truc égoïste. Le corps. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? J'ai fini après. Prends la scène. T'es un enfant de Dieu. J'imagine que t'as demandé d'être baptisé. Fais-le rapidement autrement. Ensuite, t'abstiens pas. Il s'agit, Paul n'a jamais dit nulle part, examine-toi pour savoir si tu dois t'abstenir. Il n'a pas dit ça. Il a dit que chacun s'examine soi-même et ensuite prenez. Donc il y a juste peut-être deux, trois trucs, un coup de plumeau à enlever, de péché à confesser ou de frères et sœurs peut-être à reconstruire quelque chose. Et ensuite on partage ce repas. On n'est pas là pour s'abstenir, on est là pour vivre. Je veux dire, la scène, ça représente l'évangile. Donc, et l'évangile, c'est le remède à mon péché. Donc, je vais pas m'abstenir d'un truc qui est justement un moyen de grâce que Dieu m'a donné parce que je suis pécheur. Pardonné, il est vrai. Mais parce qu'il m'arrive de pécher. Donc, on va pas s'abstenir pour rien. Et enfin, ne cherchons pas en dehors de Christ, je ne sais pas quoi, quelle expérience, quelle méthode, quelle technique. Ne pensons jamais qu'il y a à recevoir dans notre vie plus que Jésus. Il y a à recevoir complètement, de plus en plus, tous les bienfaits de Christ. accessible, ouvertement distribué, généreusement donné par les moyens de grâce et d'autres encore à son peuple.